France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touraine.
Les ados du Lavomatic, un épisode d'être et savoir pour réfléchir à la place des adolescents et des jeunes dans l'espace public. Ces derniers temps, la presse et les réseaux sociaux se sont emparés du débat sur les espaces sans enfants, dans les trains, les lieux de loisirs. Mais les plus jeunes ont-ils suffisamment de lieux à leur disposition en général? Sont-ils les bienvenus à l'extérieur de la maison ou de leurs écoles et même au sein des établissements scolaires? Cette question de la place physique est forcément aussi une question symbolique et politique. Quelle importance accordons-nous à l'enfance au sens large, c'est-à-dire celle qui comprend l'adolescence, dans nos choix budgétaires et nos choix d'aménagement? Un bon sujet à quelques jours des élections municipales, mais tout le temps en fait. Alors ça faisait longtemps que j'y pensais, et cet hiver 2026, alors qu'il neigeait, pleuvait, qu'il faisait nuit noire le matin, eux aussi, parce que comme ma fille prenait sa trottinette, nous empruntions le trottoir opposé à celui de l'école, j'ai mieux vu les silhouettes dans le lavomatic situé à quelques numéros de son école primaire, des ados assis sur le rebord, derrière la vitre, parfois installés sur des machines, téléphone en main, cahier ouvert, paquet de gâteaux à partager. Il et elle élisent un domicile non fixe à la faveur de trous dans leur emploi du temps, d'absence de professeurs ou de refus d'entrée dans leur lycée pour cause de retard, dans cet espace à partager avec ceux qui viennent faire leur lessive. Je me suis renseignée, les laveries près des lycées remplissent très souvent cette fonction d'accueil, rien de spécial donc dans la rue de mon école. Et puis il se trouve qu'une durite de mon lave-linge a rendu l'âme. Et c'est particulièrement difficile à remplacer. Alors moi aussi, j'ai commencé à passer du temps à la laverie et à discuter avec des élèves. Finalement, cet espace m'ouvrait un nouveau cadre et une occasion d'écouter d'autres enfants. Alors que font-ils là, entre les machines et les sèches-linges, 1 euro les 7 minutes? Pourquoi ici et pas ailleurs? Vous venez souvent ici à la laverie?
Dès qu'on a 3-4 heures de pause ou de perte.
Et qu'il pleut, on peut être ici au calme, au chaud, oui. Et pas rester dehors quoi. Parce que c'est l'endroit où on peut s'asseoir et rester, voilà.
Bah, si on reste dehors, on peut avoir froid. Quand il y a des profs absents, on vient ici pour se réchauffer, pour jouer, pour s'amuser, etc. Et on est tranquille quoi.
Vous jouez à quoi?
Jouer sur nos portables, logiquement, et voilà.
Mais à part cette question du portable, je sais que c'est interdit au lycée, pourquoi vous restez pas au chaud à l'intérieur du lycée?
C'est juste pour cette question.
Et même aussi...
Parce que le foyer, il est fermé. Le foyer, il est fermé dans le lycée.
On n'a pas le droit de traîner dans les couloirs aussi au lycée, donc on a juste le droit d'aller en cours, ou sinon, pas le droit de traîner dans les couloirs, c'est interdit aussi. Donc là, c'est le seul moment où on est un peu libre, dehors.
Libre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
En soi, c'est juste un endroit où on peut juste se poser, on est au chaud, on est tranquille. Aussi, vu que c'est à côté du lycée, on peut quand même y aller presque tout le temps, à chaque heure de pause.
On peut faire ce qu'on veut.
Ouais, il n'y a personne qui nous dérange.
Il n'y a pas de règles, on va dire. Parce qu'au lycée, on n'a pas d'entraîner dans les couloirs, pas au téléphone, alors qu'ici, on peut faire ce qu'on veut, quoi.
S'il n'y a pas de liberté. Dans notre cas, 3, quand on vient ici, on dérange personne, et du coup, voilà. Mm. Parce qu'il y en a souvent qui dégradent les lieux, etc.
Oui, on respecte les lieux, contrairement à d'autres.
Donc, ce serait vraiment... Hyper dérangeant pour vous si le propriétaire décidait que c'est plus accessible pour vous?
Un peu, mais après, on respecte son choix. C'est lui le propriétaire, c'est lui qui choisit.
Vous venez combien de fois par semaine ici? Alors, on parle pas de l'été quand il fait beau et que vous allez au parc.
3 fois par semaine, à peu près. Enfin, ça dépend.
Parce qu'en fait, dans notre emploi du temps, les profs qui sont pas là, c'est souvent les mêmes jours, ou les cours décalés, c'est souvent les mêmes jours, les pauses, c'est souvent les mêmes jours. Et du coup, on vient tout le temps à la même heure ici.
Pareil.
Par exemple, vendredi, de 15h à 16h, on a une pause tout le temps, tous les vendredis, du coup, on vient ici. Et on préfère rester ici que rentrer chez nous à Perpète. Et voilà. Tous les vendredis, nous sommes à la laverie.
Alors j'ai croisé le proviseur de cette cité scolaire, il est parfaitement au courant. Dans ce numéro, on ne va pas entendre le proviseur, on va entendre d'autres élèves. Ceci était en seconde, on entendra des premières et puis des adultes qui se sont intéressés à cette question des lieux. Grégoire Borst, qui est professeur de psychologie, spécialiste des écrans, mais il s'intéresse beaucoup au temps des enfants, au temps libre des enfants et des ados. Edith Maruet-Jules, qui est géographe et qui s'occupe d'aménagement des espaces publics aussi pour les ados, en prenant en compte la question de la mixité. Et ma camarade de Radio France, Nora Hammadi, vous savez, elle est en charge de la revue de presse de la matinale de France Inter. Nora donne aussi des ateliers d'éducation aux médias des jeunes adultes et des ados. Elle a publié « La maison des rêves, une histoire des banlieues françaises » chez Flammarion à la rentrée 2025. Un texte qui se saisit d'une histoire collective des lieux de l'enfance et de l'adolescence en banlieue, en partant de son expérience personnelle.
Alors, moi, je me souviens que dans mon quartier, et c'est l'objet du livre, il y avait la Maison des Rêves. La Maison des Rêves, c'est un local qui était entre l'escalier B10 et B11, ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon des bailleurs sociaux, des locaux communs de résidence. Ils étaient tenus dans leur cahier des charges au moment où ils construisaient les HLM, les grands ensembles, de mettre à disposition des associations et des habitants des locaux communs pour faire vivre, en fait, le lien social. Donc, moi, j'ai connu ça. C'était plutôt quelque chose qui était pour les mômes primaires, milieu de collège. Après, il y avait évidemment la maison des jeunes, mais qui était déjà à l'époque beaucoup plus prise d'assaut par les garçons, parce que on comprendra plus tard que voilà, le rapport à l'espace, notamment à l'espace public ou à ce genre de d'espace comme ça qui est mis à disposition par les municipalités, en fait, c'est aussi très genré. Il y avait la maison de quartier aussi, qui était là plutôt un accueil plus ouvert, plus large, où il y avait aussi les familles. Mais il y avait des cours de danse, il y avait plein de choses. Il y avait évidemment les clubs de sport, parce que on était à l'époque extrêmement... je parle des années 80-90. C'était quelque chose d'assez quotidien. Donc, on était au stade, on était dans les gymnases, on était à la piscine. Voilà. Mais après, il y avait aussi les espaces de l'ennui. Et ça, c'est aussi assez intéressant parce que quand on grandit, notamment dans le périurbain, l'espace de l'ennui, c'est... Alors, à l'époque, il y avait la cabine téléphonique qui était un lieu de rendez-vous. Et puis, il y avait un banc à côté de la cabine téléphonique. Donc, on savait, quoi qu'il arrive, qu'à cet endroit-là, on croiserait quelqu'un et qu'on pourrait rester là. Il y a évidemment les escaliers, les cages d'escaliers, qui étaient des endroits où on se retrouvait, et les arrêts de bus. On a squatté des arrêts de bus aussi.
Moi, c'était l'arrêt du 194. Est-ce que tu te souviens?
Moi, c'était l'arrêt du 292 et du 199.
Des lignes que j'ai pas fréquentées parce qu'on vient pas de,
des lignes de
la même banlieue.
Ouais, exactement.
Ces espaces, est-ce que on vous y laissait tranquille? Est-ce que c'était admis que on était là et pas forcément perçu comme n'ayant rien à y faire?
C'était vraiment un espace dédié, en fait. La maison des rêves, typiquement, c'était l'espace des mômes. Il y avait trois ou quatre animateurs, parfois pour une centaine de gosses. C'était ce qu'on appelait à l'époque un accueil décloisonné. C'était pas un centre de loisirs. Il n'y avait pas d'inscription préalable. Il n'y avait pas la nécessité de demander aux parents. Et ça, je pense que c'est assez central parce que ça répondait à un besoin des gosses et pas à un besoin des institutions et encore moins des parents. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment presque une forme contractuelle qui ne disait pas son nom entre les animateurs qui étaient présents et les enfants. Et il n'y avait pas besoin de passer par les parents, il n'y avait pas besoin de passer par d'autres adultes, il n'y avait pas besoin d'une inscription, il n'y avait pas besoin de quotient familial. Et donc, ça a créé quand même les conditions d'un accueil inconditionnel. Et ça, c'est extrêmement rare. On peut le retrouver dans les maisons de quartier, dans les maisons des jeunes. Mais aujourd'hui, encore, je trouve que... Moi, je me suis retrouvée parfois dans des maisons des jeunes où il y a beaucoup de garçons. Parce que, je sais pas, va y avoir des baby-foot, va y avoir une PlayStation. Et puis, on va pas se poser la question de comment on fait pour que ce soit un accueil inconditionnel pour tous et toutes. Mais c'était ça qui était intéressant à l'époque.
Et comment ça s'est transformé, Longjumeau, et puis au-delà de ça, d'autres villes de périphérie?
Alors, dans des logiques vraiment institutionnelles, il a fallu cadrer. Donc, on en a fait un centre de loisirs. Donc, il a fallu passer par des inscriptions en mairie, par les parents, avec des fiches de paye, avec ce quotient familial qui conditionne tout, alors même que c'était un accueil où il n'y avait pas de cantine, voilà. C'est un tarif à la journée. Et là, en fait, quand on est dans un quartier, ça crée tout de suite des freins dans l'accès aux droits. Et c'est là que ça a commencé à péricliter. C'est-à-dire qu'en fait, on a changé complètement de paradigme. On est parti du principe qu'il fallait répondre à un besoin de l'institution, de cadrage, de rationalisation. Et on a arrêté de répondre aux besoins des gosses. Et là, en fait, à partir du moment où on arrête de répondre d'abord à un besoin élémentaire des mômes, qui est, où est-ce que je vais ? Est-ce qu'il y a un lieu pour nous, avec des gens qui vont s'occuper de nous, qui vont nous donner des activités, qui vont nous accompagner vers des apprentissages, vers des savoirs, vers lesquels on n'irait pas ? Moi, c'est comme ça, par exemple, que j'écoute Mozart pour la première fois, que je fais des matchs d'impro de théâtre, que je fais de la danse, qu'on nous emmène à la piscine, qu'on fait des petits voyages à la journée, qu'on va à Paris voir des musées, et sans passer, en fait, par la case parentale. Ce que j'aimais bien, moi, dans cette idée-là, et que je retrouve parfois dans des communes avec lesquelles je travaille, parce que ça existe encore, même si à Longjumeau, là où j'ai grandi, tout ça n'existe plus. Et c'était d'ailleurs tout l'objet du livre, c'était de raconter dans une nécessité d'archivage, en fait, ce que ça a été, cette ville à hauteur d'enfant. Et vraiment, alors la ville n'était pas spécifiquement à hauteur d'enfant, mais ce quartier était à hauteur d'enfant. C'était un quartier où les voitures ne rentraient pas. C'était un quartier où il y avait une grande dalle de sable qu'on appelait un peu notre Sahara, où les parents, les adultes, en fait, nous surveillaient depuis leurs fenêtres. Et c'était notre espace, en fait. Voilà. Et il n'y avait pas de risque. Le risque, c'est qu'on tombait. Mais il y avait toujours un parent, un voisin pour nous voir et pour nous prendre en charge. Et donc, ces territoires à hauteur d'enfant, aujourd'hui, tendent à disparaître. Ces locaux communs de résidence disparaissent puisqu'ils ne font plus partie des cahiers des charges des bailleurs sociaux. Ces espaces dédiés aux mômes où des animateurs sont là dans des accueils décloisonnés inconditionnels où il n'y a pas besoin justement de passer par la famille, par le foyer, par les parents, par de l'administratif. Ben, en fait, ça n'existe quasi plus. Et puis, il y a quand même, à mon sens, un sujet qui est central, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de répondre aux besoins des enfants d'abord ? Et ça, en fait, c'est plus du tout un sujet. Enfin, nulle part. La question du besoin des enfants, quel que soit le besoin, en fait, on n'est même plus capable d'y répondre. Je ne suis même pas certaine qu'on soit capable de dire quels sont leurs besoins, ce dont ils ont envie. Et donc, on répond par des cadrages et des dispositifs. C'est le périscolaire, c'est le sport, c'est la musique, c'est des dispositifs, ce que j'appelle des dispositifs. Et il y a rien qui soit du domaine juste de la liberté d'expérimenter. Voilà. Et c'était ça que je trouvais extraordinaire pour l'époque, c'est qu'il y avait une totale liberté d'expérimenter avec juste ce que j'appelle des tiers veilleurs, donc des adultes qui ne sont ni vos parents ni votre famille et qui vous regardent avec beaucoup d'amour en disant tu sais quoi, on va juste rigoler et on va faire ensemble et tu vas voir ça va être génial. Sans se dire qu'il y a une finalité d'apprentissage, une finalité en fait de compiler des savoirs. On n'est pas dans des logiques concurrentielles comme au sport, parce que il y a aussi beaucoup ça. On n'est pas dans des logiques de il va falloir apprendre un instrument, apprendre à danser, apprendre. En fait, non, on a le droit aussi de rien. On avait aussi le droit de s'ennuyer. On avait le droit de faire des puzzles. On avait le droit de dessiner, ou alors de regarder juste les autres. En se disant, je vais regarder les autres danser et ce sera très bien aussi, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, du temps improductif possible et de l'espace de l'expérimentation sans finalité. Et ça n'existe plus.
Sans finalité à l'adolescence, voilà qui résonne de manière un peu paradoxale avec l'époque. Et puis cette question de la liberté, elle est tellement, tellement importante à l'adolescence. Alors on revient au présent. En 2026, avec des élèves de première à qui j'ai demandé tout simplement pourquoi c'est si bien la laverie.
On peut fumer, on peut regarder nos téléphones, travailler, manger, ce qui est plus intéressant que le foyer.
Là, on a mangé des cookies et il a pris une Red Bull et puis voilà, c'est sympa.
Simon,
Léa,
Ava. Ava, qu'est-ce que tu trouves sympa dans le lavomatique ?
Un peu comme Simon il a dit, on est plus libre, on peut fumer. Après, je comprends qu'au lycée, on puisse pas fumer, parce que sinon, ce serait n'importe quoi. Mais on peut utiliser nos téléphones, on peut manger, on peut boire. Il n'y a pas de CPE qui nous surveille. Enfin, c'est beaucoup mieux, quoi. Oui, en vrai, on sait qu'on peut pas fumer, mais on le fait quand même.
Oui, c'est un endroit pas surveillé, c'est un endroit qui est chaud aussi. Et du coup, quand on est dehors et qu'il n'y a pas le foyer, justement, on peut se détendre et pas... Genre, par exemple, quand il pleut, on se met à l'abri.
C'est quoi ton prénom ?
Antoine.
Antoine. Et toi ?
Romain.
Romain, d'accord. Donc, bonjour.
Bonjour. C'est le syndicat qui est là ?
Ouais, presque. Je peux vous poser une question ?
Allez-y, toujours.
Est-ce que ça vous gêne, la présence des jeunes dans le lavomatique ?
Pas du tout, je m'en fous, tant que ça fonctionne, là ils sont au chaud là.
Et puis moi je me souviens que la semaine dernière on avait beaucoup cherché un endroit, on s'était dit peut-être le McDo et tout ça, mais en fait tout ça c'est très loin. Et le parc, il faisait froid à ce moment-là, mais quand il fait chaud, oui c'est vrai que c'est sympa un parc de rester dehors. Mais c'est surtout pour là que le foyer soit fermé alors qu'il fait froid et qu'il pleut, c'est plutôt compliqué.
Et pourquoi vous n'allez pas les uns chez les autres ? C'est pas cool ?
Là, je sais qu'il y en a deux ou trois qui habitent à côté. Enfin, Romain et Antoine, ils sont pas très loin, je crois. Mais on peut pas forcément arriver à 5 chez eux, à 9h du matin. Enfin, c'est... Voilà.
Il y a les parents qui dorment et tout. On va pas arriver à 5.
Vos parents, ils sont souvent chez vous, du coup ? Est-ce que ça crée des conflits de... Ouais ?
Oui, ils travaillent essentiellement en télétravail... Donc, ils sont assez présents à la maison quand ils ne sont pas en mission.
On aimerait bien être dans un endroit chauffé où on peut discuter et travailler. Être ensemble, quoi, c'est... Oui, voilà, c'est ça, avoir plus de liberté.
Être libre, ne pas être surveillé et pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut même.
On est supposé être majeur ou au lycée, donc avoir une certaine autonomie qu'on ne nous donne pas. C'est infantilisant. Et je trouve ça assez dommage et navrant... qu'on en vienne à là.
T'as quel âge ?
J'ai très bientôt 18 ans. Dans moins d'un mois.
Donc ça veut dire que quand t'auras 18 ans, tu pourras toujours pas... T'es en première aussi ?
Oui, j'ai redoublé. Mais même quand je serai majeur, je pourrais pas rester dans le lycée ou quoi que ce soit d'autre. C'est passé l'année dernière au conseil d'administration. Ils l'ont fait quand il n'y avait pas beaucoup de représentants des élèves, comme beaucoup d'autres choses. Et je trouve ça un peu dégueulasse de leur part. Désolé. T'en avais qui allaient partir l'année prochaine, qui en avaient rien à faire, ils ont fait passer le truc des téléphones, comme ça, vite fait, alors que plus de la moitié était pas forcément d'accord, mais ils ont quand même voté pour au CA, quoi.
L'interdiction du téléphone, ça nous oblige à sortir du lycée, parce que ce soit n'importe quoi, par exemple, on monte les escaliers, il y a toujours un surveillant à chaque étage qui surveille si on utilise nos téléphones, et comme Simon l'a dit, il y a quand même des gens qui ont redoublé, ou même des gens qui sont en terminale, qui vont bientôt avoir 18 ans, Enfin, je trouve ça dingue que Simon, il aura 19 ans l'année prochaine et il pourra toujours pas utiliser son téléphone. Enfin, c'est comme il a dit, c'est hyper infantilisant. Je trouve ça fou. Enfin, on est au lycée, on est censé avoir plus de liberté et on peut toujours pas utiliser notre téléphone, ne serait-ce que pour répondre à nos parents, par exemple.
Mais est-ce que, alors c'est une question un peu plus compliquée, mais est-ce que vous trouvez ça décalé par rapport à la manière dont on vous fait réfléchir, par exemple sur l'histoire, ou je sais pas s'il y en a qui font HLP, mais en philo sur des concepts comme la liberté, le libre arbitre.
Il y a vraiment un décalage. La façon dont ils nous parlent, pour la plupart, et la façon dont on nous apprend, n'a aucune cohérence. On nous apprend à penser par nous-mêmes et à agir par nous-mêmes. Cependant, on est beaucoup bridés sur certains actes ou façons de penser dans ce lycée. Et c'est vraiment dommage. Ça crée un gros contraste qui peut être perturbant pour certains.
Si vous pouviez choisir... Attendez, je vais remettre des pièces parce que sinon je peux pas, après j'ai un rendez-vous. 31... Entre 16h et 17h ?
Je me souviens qu'entre 16h et 17h, j'avais une heure de trou parce que mon prof, il était absent. Et on m'avait dit que je pouvais pas sortir parce que j'avais cours après. Et que, en fait, ça avait sonné il y a 5 minutes et que le temps que j'aille aux toilettes, il m'avait pas laissé sortir et je devais aller en permanence. Et en permanence, tu peux rien faire. Enfin, tu peux que travailler, t'as pas le droit à ton téléphone, t'es surveillé tout le temps et puis tu peux pas parler. Voilà, c'est un peu...
On est censé chuchoter, quoi. En soi, on peut parler, mais... Faut être discret comme au collège, quoi.
Et puis même, ils acceptent pas les retards, même si on arrive avec 5 minutes. Il y en a qui habitent pas proche du tout, il y en a qui habitent à Nanterre, dans ce lycée. Ouais. Et t'arrives avec 5 minutes de retard, ils te laissent pas rentrer. Une fois, il caillait dehors, il neigeait, il ne me laissait pas rentrer.
Quand il neigeait, on ne m'avait pas laissé rentrer. Et je me souviens que j'étais... Parce que c'était 1 heure sur les 2 heures. Et quand tu rates 1 heure, tu rates 2 heures. Et il neigeait à ce moment-là et j'étais restée dehors parce que je ne connaissais pas la laverie à ce moment-là. Et je suis restée dehors dans le froid alors que je voulais me chauffer.
Dans la librairie, juste là. J'ai squatté.
Dans la librairie ?
Ouais.
C'est drôle.
Mais et est-ce que au-delà des moments scolaires, vous trouvez que la ville est accueillante ou pas, qu'il y a des endroits pour les ados ?
À côté du lycée, aux abords du lycée, c'est un peu vide et il y a en fait c'est le lycée qui manque vraiment d'espace de travail et de salles dédiées aux élèves pour faire notre vie. Après voilà, il y a peut-être pas la place pour ajouter une salle, enfin c'est même sûr, mais oui, c'est très grand, mais il y a peut-être, enfin, ils peuvent peut-être pas.
On nous demande d'utiliser nos téléphones pour répondre à des sondages, et c'est tout le temps sur nos téléphones, et donc en fait, on est obligé de sortir pour répondre. Ils nous disent oui, vous devez sortir pour répondre, et donc on fait, ça dure 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu relou, mais bon. Et puis pour réserver la cantine, il nous faut nos téléphones. Donc
on vous demande de sortir du lycée pour utiliser un téléphone pour réserver la cantine.
C'est ça. Une fois, je réservais par mégarde, j'ai utilisé mon téléphone pour réserver la cantine à l'intérieur du lycée, et on me l'a reproché, et on m'a pris ma carte pour me mettre un petit mot, quoi.
Pareil, toi, t'as déjà eu des problèmes avec le téléphone
J'étais aux toilettes, j'étais sur mon téléphone et ils m'ont dit de donner mon nom. Ils m'ont demandé la carte pour mettre un petit mot aussi. Mais même quand on regarde, par exemple, sur Pronote pour voir si nos profs sont absents, ils nous embêtent avec ça, quoi. Ils nous demandent de ranger. Et puis maintenant, même, ils ont mis les classes avec les profs absents et tout. Il y a des petites affiches. Donc on peut vraiment plus utiliser notre téléphone pour regarder Pronote. Il y a déjà tout écrit.
Et même l'emploi du temps aussi. Ouais.
Bon bah ça au moins ils ont fait quelque chose.
Il y a juste un truc de ouf je trouve, c'est qu'ils nous demandent de nous fier au tableau parce qu'on a une espèce de... Il y a une ardoise devant le lycée avec les profs absents. Et ils nous demandent de nous fier à ce tableau. Donc parfois, par exemple, la semaine dernière, mon prof d'SES n'était pas là. C'était écrit mais personne ne savait vraiment. Sauf que si on revient, enfin on part... Parce qu'il y a écrit que notre prof est absent, on revient et on veut justifier l'absence. Et on va dire oui, mais il fallait regarder Pronote, sauf que le téléphone, il est censé être interdit. Donc moi, finalement, ça m'arrange un peu, parce que du coup, il y a souvent des trucs qui sont mal affichés sur le tableau. Donc dès qu'il y a un prof qui n'est pas là, j'y vais pas, hein, je m'en fous. Mais enfin, c'est hyper contradictoire. Ils nous demandent de nous fier au tableau ou de nous fier à Pronote quand ça les arrange, alors qu'on n'est pas censé utiliser le téléphone.
Ouais. On a vécu une scolarité sans téléphone et oui. Je sais pas comment on a fait, mais ça marchait. Enfin, de...
Oui. Mais même en cours, des fois, ils nous demandent de sortir nos téléphones pour, par exemple, des caouts ou d'autres choses comme ça pour regarder sur... Mais du coup, on va dans d'autres salles pour les ordinateurs, sauf qu'il y a plein d'ordinateurs qui sont HS, quoi. Donc, mais bon, pas de téléphone.
Et elle est tellement importante, cette question du téléphone pour les ados. Quoi qu'on en pense, je précise que les cigarettes qui sont fumées à l'intérieur de la laverie sont des cigarettes électronique. Alors le téléphone, évidemment, j'en ai parlé avec Grégoire Borst. Il avait participé à la fameuse commission écran en 2024. On avait fait un numéro d'être et savoir. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter le podcast. Il est toujours d'actualité. On va revenir aux écrans, évidemment, avec ce professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris 1. Et c'est là que je l'ai rencontré, Grégoire Bosse, qui est directeur d'un laboratoire qui s'appelle Lapsidé, qui est associé au CNRS, qui a coécrit avec Anne Cordier et Nadia Dam « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ?» publié chez Robert Laffont et Ouzbek Erika. Donc, on a d'abord évoqué une question à laquelle il tient beaucoup, celle de la place des enfants dans la ville. Et puis, on a parlé de la question de nos représentations du risque.
On les voit assez peu. Moi, je suis assez surpris du fait qu'en 20 ans, si je prends mon expérience personnelle, moi, mes enfants, assez rapidement, sont allés à l'école tout seuls. C'était admis qu'en CE1, CE2, ils aillent à l'école au bout de la rue tout seuls. Aujourd'hui, c'est quasiment inimaginable. C'est-à-dire qu'on va les accompagner jusqu'à la fin du CM2 quasiment et les chercher systématiquement à l'école. Et on voit peu d'enfants qui circulent seuls dans la rue. Et dans le même temps, on voit bien qu'il y a un questionnement global sur le risque qu'ils peuvent encourir devant les écrans, tout en ayant quand même conscience qu'ils ont des écrans parce que les parents leur achètent des écrans. Donc on est dans une situation un peu paradoxale où les parents se plaignent du temps qu'ils passent sur les écrans, mais en même temps ça les arrange bien parce que ça évite qu'ils aillent se balader tout seuls sans qu'on sache forcément là où ils sont. Et que si on veut vraiment interroger la question de la place du numérique, ben, je veux dire, de façon corollaire, on pose la question de quelles activités non numériques auxquelles peuvent avoir accès les jeunes, et notamment dans l'espace public, quelle place on leur laisse réellement. Et comme on le disait, il y a peu de place en fait pour les jeunes dans l'espace public. Enfin, les jeunes, je parle surtout des adolescents, aussi parce que bah, le coût de la vie a augmenté et ce qu'on pouvait faire quand on avait 10 ou 15 ans à Paris, je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure aujourd'hui, même financièrement, de pouvoir aller au café, boire des cafés, parce que le prix a considérablement augmenté. Donc en fait, il n'y a pas d'espace.
Des endroits où on ne contrôlerait pas ce que font les enfants, et sur les internets, et dans la vie urbaine, ça nous dérange.
Parce que je pense qu'on a progressivement, on a une représentation dans nos sociétés qu'il pourrait y avoir des sociétés au risque zéro. Et tout le monde pousse pour le risque zéro. En fait, ça n'existe pas, le risque zéro. Et ce risque zéro, il implique effectivement des parents qui veulent contrôler là où sont leurs adolescents, là où sont leurs enfants. Ils voudraient qu'en ligne aussi, il y ait un risque zéro. Mais en fait, il faut essayer de rappeler à tous ces adultes qu'ils n'ont pas grandi dans des sociétés dans lesquelles le risque était un risque zéro. Et que c'est une bonne chose, en fait, que le risque ne soit pas un risque zéro, parce que c'est le seul moyen d'apprendre à prendre des risques. Parce qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, on sait calibrer nos risques, on sait prendre des décisions au regard des risques encourus. Et cette idée qu'on va créer une société dans laquelle il n'y a plus aucun risque, finalement, pour l'enfant et pour l'adolescent, enfin, en tout cas, c'est l'espèce de fantasme dans lequel les parents aimeraient vivre, c'est une très, très mauvaise idée. Et effectivement, il y a quand même un enjeu de l'éducation des parents vis-à-vis de leurs enfants et de leurs adolescents, c'est de leur permettre de s'autonomiser progressivement. C'est une très très mauvaise idée, hein, l'idée de contrôler tout ce que font nos enfants et nos adolescents, parce qu'ils se construisent aussi dans ce moment où ils ne sont pas avec nous. Moi, je le remarque encore une fois, pour avoir été parisien de naissance, moi j'ai toujours circulé à Paris sans que mes parents sachent où j'étais, et c'était parfaitement admis, en tout cas dans ma génération. C'est-à-dire qu'il y a 30-35 ans, on pouvait se déplacer, on n'avait pas forcément de carte de téléphone, ou alors à la rigueur, on avait une carte de téléphone pour prévenir, mais la majorité du temps, on ne savait pas où étaient ses enfants, et on était quand même dans des environnements qui, en fait, quand on regarde les indices de criminalité et les chiffres de la criminalité, étaient plus dangereux qu'aujourd'hui. Donc on a complètement renversé, en fait, cette notion du risque, et je pense que ça amène effectivement des parents qui vont être dans un excès, je dirais, de protection de leurs enfants et de leurs adolescents. C'est terrible à dire, hein, d'un point de vue individuel. J'entends bien que les parents vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce chercheur complètement dingue qui dit que les enfants doivent prendre des risques ?» Mais je ne suis pas le seul à le dire. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, si on prend très tôt la question, par exemple, de la prise de risque dans les jardins d'enfants, dans les parcs aujourd'hui, il y a des sols de protection pour éviter que les enfants, quand ils tombent, ne se cassent le bras ou ne se cassent la jambe. Eh ben, l'Académie de pédiatrie canadienne a dit « c'est une très très mauvaise idée en fait. Vous faites n'importe quoi parce que à force de mettre de la protection partout, on a des enfants qui montent de plus en plus haut, qui sautent de plus en plus haut et qui en fait ne calibrent plus le risque en se disant « en fait si je saute de 50 cm, je risque de ne pas me faire mal, mais si je saute de 5 mètres et qu'il n'y a plus la protection du sol, là je risque en fait, je risque au-delà de me casser la jambe, peut-être même d'avoir un handicap à vie. » Et ça en fait, à force de créer des environnements sans risque, on ne permet pas aux enfants, au-delà de s'autonomiser, de construire leur rapport au risque en prenant parfois des risques avec des conséquences qui peuvent être négatives. Mais ce que dit l'Académie de pédiatrie canadienne, c'est qu'ils disent « En fait, en termes de ratio coût-bénéfice, c'est moins grave qu'un enfant se casse le bras en ayant pris un risque parce qu'ensuite, dans sa vie future, il aura calibré ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il a appris finalement à prendre des risques raisonnés. » Et sauf qu'aujourd'hui, on est en train de créer des générations qui, à mon avis, une fois devenues adultes, auront des vraies difficultés de perception du risque et donc de prise de décision dans un certain nombre de situations.
Alors, est-ce que ça s'applique aux espaces numériques ?
Je pense qu'effectivement, la question, c'est surtout de se dire que, évidemment, la solution facile, c'est de dire on va repousser dans le temps. Donc, ça sera des adolescents qui seront plus à même d'évaluer le risque. Mais en fait, on a une vision complètement naïve des choses. Pourquoi un adolescent aujourd'hui à 15 ans a des pratiques numériques qui sont moins risquées que ceux de 13 ans ? Parce qu'il a utilisé pendant 2 ans le numérique. C'est son utilisation, son usage, son apprentissage de l'outil qui lui permet à 15 ans de prendre moins de risques dans ces espaces-là. Et donc, la vraie question, c'est comment on les accompagne sur ces espaces-là, comment on pense de l'éducation à l'utilisation de ces outils.
Est-ce que, quand vous faites ce rapprochement-là, on vous entend, on vous comprend ?
J'ai l'impression qu'on a essayé de le faire, en tout cas au moment de la sortie du rapport écran. Quand on avait vu Emmanuel Macron au moment de la remise du rapport, il avait dit « je pousserai pour toutes les recommandations ». Et dans ce rapport-là, il y a des recommandations autour de la place de l'enfant et de façon plus générale des adolescents dans la société et dans les espaces publics. Donc ça veut dire leur proposer des activités extrascolaires, ça veut dire recréer un tissu associatif qui permette de faire bénéficier l'ensemble de ces jeunes et des adolescents notamment d'activités auxquelles ils pourraient participer, et puis d'avoir des espaces en fait, de penser la ville aussi pour cette population-là. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez surprenant. Alors, il y a quand même des villes qui le font. Moi, j'étais à Lille dernièrement, ils pensent la ville à hauteur d'enfant. Mais la ville à hauteur d'enfant, c'est aussi quels espaces de socialisation physique dans lesquels les adolescents puissent se réunir. Et ça, je trouve que c'est quand même un impensé global. Et quand on en parle avec les politiques, ils disent oui, bien sûr. Et en même temps, quelques prises de parole plus tard, on entend, de toute façon, les adolescents, ils passent leur temps à jouer à des jeux vidéo violents, ils se réunissent en bande pour commettre des délits, et puis de toute façon, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Mais il y a quand même aussi une représentation extrêmement négative de la jeunesse dans ce pays. Enfin, c'est quand même très particulier à ce pays qui considère que globalement, les adolescents, c'est plus une problématique qu'une chance. Ce qui est un peu incroyable de se dire que quand même la jeunesse normalement dans les pays, c'est de se dire c'est l'avenir, c'est ceux qui vont penser le monde de demain, et nous on a plutôt un caractère extrêmement stigmatisant de ces adolescents. Quand on en parlait, c'est toujours les ados qui sont en bas des tours, qui sont des guetteurs pour faire du deal ou des choses comme ça. On n'a jamais le côté positif des adolescents qui par exemple vont se réunir pour des causes et ainsi de suite. Et encore une fois, on manque d'espace. Vous parliez des labomatiques. Encore une fois, je pense qu'il y avait des espaces avant. Le café, c'était un espace de socialisation pour les jeunes. Et je pense qu'il a un peu disparu parce que, en fait, c'est trop cher d'aller prendre un café assis dans une terrasse à Paris. Hein.
Quand j'étais au lycée, c'était dans les années 90, c'était un franc.
C'est ça. Je pense que c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'espaces de socialisation. Quand on est adolescent, on a besoin de socialiser avec les autres. Et finalement, aujourd'hui, ils ont peu d'espaces de socialisation, si ce n'est le cadre scolaire. Dans le cadre extrascolaire, assez rapidement, de toute façon, quand il fait froid, ils n'ont plus d'espace pour aller finalement s'asseoir les uns avec les autres, à part dans des espaces qui ne sont pas forcément dédiés à ça. Et qu'on sait qu'effectivement, ça c'est aussi des données qui sont issues du ministère de l'Éducation nationale, les élèves qui participent le plus à des activités extrascolaires, ça a un effet bénéfique évidemment sur leurs résultats scolaires. Donc on voit bien aussi que c'est aussi un moyen de lutter contre les inégalités, et notamment les inégalités sociales qui produisent des inégalités éducatives. Donc là, on se dit que c'est évidemment dans comment on pense des activités alternatives aux écrans qu'on a un moyen finalement de trouver des capacités de régulation des jeunes par rapport à l'utilisation des portables. Mais si on leur dit juste « les utilisez pas », il y a peu de chances que ça marche.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Nous, on vient quand il n'y a pas trop de monde. Mais il y a des fois, il y a des gens qui viennent. Il y a des fois, ils sont trop nombreux, du coup, on ne vient pas.
Mais des gens qui font leur lessive ou des gens du lycée ?
Des gens du lycée.
Des fois, il y a trop d'élèves dans la laverie. Aller au café, enfin, quand vous aurez 16 ans, vous aurez techniquement le droit d'y aller, vous imaginez pas ?
Bah, on est obligé de consommer et souvent, on n'a pas trop envie de consommer et du coup, on vient ici. Hein.
Ah, c'est ça.
Ça aussi.
On va pas prendre un chocolat chaud pour rester dans le café, enfin, c'est pas...
Pas très pratique et surtout un peu cher hein, pour ces élèves de seconde. On va parler des espaces commerciaux avec Edith Maruet-Jules qui travaille sur l'espace et le genre à l'école et dans la ville. Elle est docteure en géographie, spécialisée donc dans les questions de genre et de mixité, experte en réaménagement des espaces publics et fondatrice de l'atelier Recherche Observatoire Égalité. En acronyme, ça donne la robe. C'est pas mal. Elle a publié « Faire jeu égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants » en 2022. On en avait fait une émission aussi de ce sujet. Ce que j'ai demandé à Edith Maruet-Jules pour commencer, c'est ce qu'attendaient les adolescents d'un espace pour être accueillants. Qu'est-ce qui leur plaît pour passer du temps ensemble à l'extérieur ?
C'est l'âge où on recherche la relation aussi, peut-être justement découplée de ces deux grandes dimensions, qui est celle finalement du regard adulte, mais parfois aussi du regard du groupe de pairs. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, par exemple, quand on travaille sur les relations adolescentes au collège. On voit que ça peut être, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser que le collège les protège finalement dans la relation et que c'est un espace plutôt de liberté. Dans la cour, à la cantine, etc., puisqu'ils sont entre eux, même s'ils sont sous surveillance adulte, ils ne sont pas sous surveillance, j'allais dire, d'adultes référents, quoi, de parents, d'adultes du quartier, etc., ben, parfois, c'est extrêmement normé, les relations au collège, parce qu'il faut aussi tenir les identités d'appartenance, parce que le groupe de pairs est très fort. Les espaces de libre relation, j'allais dire, ou de liberté individuelle aussi, hein, ils sont plus... à l'espace public. Aujourd'hui, pour eux, ces espaces finalement un peu de liberté, c'est plutôt les arrêts de bus, le trajet, qui n'est pas toujours non plus super sympa pour les filles, hein, mais voilà, qui sont plus des espaces non prescriptifs. Et le collège reste un espace prescriptif, notamment en termes de tenue, voilà, de tenue aussi du groupe de la norme. Donc, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir des espaces un peu soustraits, j'allais dire, à la fois au regard adulte, parce que ils grandissent et parce que c'est le moment aussi où ils ont peut-être envie d'expérimenter des choses, mais aussi du regard sociétal d'une certaine manière, quoi. Ça pourrait se traduire à travers aussi les demandes des filles, qui sont des espaces de discussion, des espaces, par exemple, au milieu des autres, mais des espaces à eux et à elles, qui peuvent être des endroits, par exemple des kiosques, des choses comme ça, en fait, dans un parc public, ou des lieux où ils peuvent s'asseoir, s'installer avec différentes hauteurs, quoi. C'est vrai que c'est aussi l'installation autonome des corps qui est importante à cet âge-là, de pouvoir se coucher, de pouvoir se mettre en hauteur, discuter de haut en bas, de dos à dos, dans des espaces beaucoup plus larges, j'allais dire. On pense très peu non plus le regroupement, en fait. Ça fait toujours très peur des jeunes qui se regroupent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a créé aussi hein, des espaces sportifs pour les garçons, pour qu'on canalise finalement leur regroupement dans ces espaces-là. Voilà, ça fait toujours peur qu'il y ait 30, 40 jeunes qui se retrouvent. Ce qui était un peu l'idée de la halle du village. Enfin, c'est une histoire récurrente, hein, cette histoire de la place des adolescents et des adolescentes dans l'espace public. Pour eux, c'est aussi bien d'avoir des grands espaces de regroupement puisque la relation est moins claire, quoi. Enfin, elle est moins visible. J'allais dire quand on est 20 à se parler que quand on est deux sur un banc, quoi. Une fille, un garçon, quoi. Donc, c'est aussi des demandes qu'ils ont, ça.
Donc, être plusieurs pour pouvoir éventuellement se croiser entre filles et garçons, ça compte énormément à l'adolescence et à mon avis aussi à l'âge adulte. Et dans un espace qui offre un peu de liberté au corps, c'est-à-dire pouvoir être assis ou assise sur le banc ou sur le dossier du banc, sur des marches. Donc on est dans une tenue du corps un peu relaxe, un peu détente, qui va aussi permettre d'échanger différemment et de montrer qu'on est dans un univers de liberté.
Oui, tout à fait. La question du corps libre au sens propre, physique du corps. Hein, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est l'âge aussi de s'affaler, c'est l'âge de se laisser aller aussi physiquement, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour les filles, par exemple. Hein. On a été, nous, sur des établissements scolaires où ils se mettent aussi sur des marches, on les voit, enfin, en tout cas, quand c'est dans un milieu urbain, enfin, moi, je suis de Bordeaux, on les voit s'installer devant le Grand Théâtre sur ces grandes marches là, dans ces espaces finalement favorables aussi au regroupement, mais par exemple s'asseoir par terre c'est compliqué, voyez, enfin, et c'est très drôle ça aussi, il y a les deux, on peut trouver aussi, on a travaillé sur des établissements scolaires où par exemple on permettait de s'asseoir par terre parce que s'asseoir par terre c'est s'auto-organiser dans la relation, se mettre en arrondi, se mettre dos à dos, c'est aussi se mettre dans les bras, enfin voilà, se pencher, s'affaler sur l'autre, etc. C'est des choses qu'ils aiment bien. Et puis, il y a aussi toute cette question de la tenue, au sens de la tenue sociale, notamment pour les filles, hein, où ça ne se fait pas de se mettre par terre. Parfois, la tenue vestimentaire aussi, qui les empêche de s'asseoir, tout simplement, par terre, ou à différentes manières, en croisant les jambes, ou, enfin, je veux dire, ou en se mettant à genoux, à demi au sol. Donc, en fait, c'est toutes ces nuances-là qui sont aussi importantes à prendre en compte, mais qui peuvent prendre différentes formes, quoi. Je veux dire, dans l'espace public, c'est d'abord la tolérance aussi à l'adolescence, quoi. Hein. Le regard adulte sur des groupes d'adolescents, il est parfois aussi malveillant, j'allais dire. En tout cas, il y a un a priori aussi de dérangement, hein, parce que c'est une population qui est moins... qu'on saisit moins, quoi. Et pourtant, c'est un temps très court, l'adolescence. C'est ça aussi que je trouve intéressant dans ces questions-là, c'est que c'est constitutif vraiment de la construction de l'adulte. Et parce que c'est inquiétant, parce que c'est fragile au niveau identitaire, etc., que c'est comme ça qu'on prend ses choix et qu'on avance dans quelque chose. Et en même temps, c'est quelque chose qui est insaisissable pour les adultes. Et donc, du coup, ça devient dérangeant, quoi, les adolescents. Mais les adolescents, ils ont besoin d'être dans la vie. Ils ont besoin d'être au centre, finalement, d'un espace public. Mais oui, la question de la tenue, de se laisser aller. Voilà. Et dans un moment aussi où le corps est douloureux. Hein, ça, c'est drôle. Enfin, il y a plein d'études psychologiques, hein, qui disent que les adolescents doivent s'affaler, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont mal partout, ils grandissent vite. Les filles avec les questions aussi de la poitrine, la question des règles, etc. Enfin, voilà. On a besoin d'avoir différentes manières de s'installer au dehors. Et c'est vrai que ça, c'est pas très permis, quoi. Mais c'est même pas permis, j'allais dire. Quand on pense à cette question-là, on peut penser aussi à toute forme de difficultés que peuvent rencontrer aussi des êtres humains, hein, que ça soit des problématiques de mobilité, des corps avec des formes de handicap, les bébés, par exemple, hein, qu'on peut pas poser au sol, etc. Donc, cette question aussi de la tenue, quoi, il faut être debout, la question de pas pouvoir s'asseoir, de pas pouvoir faire société à l'espace public, c'est aussi les adolescents qui nous la posent, quoi.
Être à l'extérieur, évidemment, ça peut vouloir dire être à l'intérieur, pas forcément d'une laverie que moi j'aime appeler lavomatique pour l'éternité, mais aussi d'autres espaces comme les espaces commerciaux, comme me le rappelait Nora Hammadi.
C'est, et ça c'est aussi extrêmement important parce que ça raconte autre chose, les fast-foods, les kebabs, les croustis poulets et autres magasins de crêpes, feta crêpes, etc. Pardon, je cite des marques, mais parce qu'en fait, ils m'en parlent tout le temps. Mais parce qu'en vrai, c'est le seul endroit où personne ne les chassera, puisqu'en fait, ils font en sorte de pouvoir consommer un peu. Ils vont errer beaucoup, les centres commerciaux, énormément. Les zones commerciales, c'est vraiment l'espace des retrouvailles, où en plus, ils peuvent... croiser d'autres jeunes venus d'autres villes. Donc, c'est un espace de socialisation énorme. Alors, dans notre logique, on va se dire que c'est des entrées de villes moches, que c'est consumériste, etc. Oui, mais en fait, c'est l'endroit où personne ne les jugera, où ils peuvent rester, errer, se balader, expérimenter, sans être dans le regard d'autrui, et expérimenter aussi l'anonymat quand ils ne sont pas dans leur ville.
Donc, le centre commercial, par exemple, ou les rues commerçantes, c'est un espace de déambulation ado. En fait, il y a beaucoup d'espaces marchands qui sont importants pour se balader, librement, peut-être se rencontrer aussi. Et en pensant à ça, je me disais, mais en même temps, il y a pas mal de galeries marchandes qui ferment aujourd'hui parce que le commerce physique est en perte de vitesse avec tous les achats en ligne, etc. Et est-ce qu'on risque pas de perdre aussi un espace de liberté pour tout le monde, mais notamment pour les plus jeunes?
Oui, oui, et puis c'est tout à fait, et c'est extrêmement important parce que, encore une fois, ça pose la question à la fois de l'excuse et de la légitimité, quoi. C'est-à-dire pour les ados, dire je vais au centre commercial ou je vais aller chercher 3 courses ou en tout cas je passe au centre avant de rentrer. Parce que, alors, ça aussi, c'est très important en fait, ce qu'on mesure pas, et en particulier pour les filles, encore une fois, et souvent elles nous disent oui, mais bon, mes parents ils veulent pas me laisser sortir, alors que mon petit frère il dit je vais au City, donc ce fameux City Stade, hein, au parc de jeux, mais c'est souvent au City Stade, et lui on lui dit ok, c'est bon, et en fait on s'est rendu compte à travers ces discours aussi que pour les parents c'était très difficile de quand on situe pas son enfant dans l'espace du dehors, c'est inquiétant, c'est-à-dire quand on se dit mais ils sont où en fait, tu sors mais où tu vas, cette question de je suis au centre commercial, voilà, je vais au Carrefour City, je dis n'importe quoi, enfin voilà, je passe là avant de rentrer, etc. Ça situe, pour le parent, l'enfant dans un espace. Donc, c'est beaucoup moins inquiétant, vous voyez, que de se dire, mais il est où dehors? Je vais dehors, mais où dehors? Voilà. Et les filles ont besoin de se légitimer et d'avoir des points de chute. Elles en ont très peu. Et puis, c'est intéressant aussi par rapport à l'adolescence, la question des commerces, parce qu'on dit toujours, les ados, ils veulent pas parler, ils veulent pas de contact et tout, mais ils vont dans des lieux où il y a beaucoup de monde aussi, hein. C'est aussi pour eux, une manière de vivre de la liberté, c'est aussi de se rendre un peu invisible, quoi, dans un espace où il y a beaucoup de monde, où on n'a pas croisé forcément le voisin, ses parents, etc. Enfin voilà, donc ça a toujours été des lieux de retrouvailles et de regroupement des adolescents et des adolescentes, d'ailleurs en mixité à l'espace du dehors, parce que c'est l'âge aussi où on grignote, par exemple. Enfin, ils adorent aller chercher un truc à boire, vous voyez, des chips ou j'en sais rien, des pop-corns, des trucs à manger aussi. Il y a ce lien-là à partager, des bonbons. On est encore entre l'enfance et l'âge adulte. S'acheter des bonbons, par exemple, c'est génial, quoi, en fait, hein. Et c'est aussi des moments de partage. Donc, effectivement, la disparition des commerces, et la question, elle est, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer une alternative à l'espace public qui déjà devrait être proposée en dehors du commerce, parce que faire de la place aux adolescents et aux adolescentes, c'est faire place à une société qui se parle à l'extérieur aussi. Donc, c'est extrêmement important. Mais c'est une question, oui, effectivement.
Et c'est vrai que le Nutri-Score de la laverie de mon quartier doit être extrêmement mauvais, vu les denrées alimentaires que j'y ai vues passer, toutes plus sucrées les unes que les autres. Mais c'est ça, le goût adolescent. Alors, la question politique, de politique locale, d'aménagement urbain, elle se pose évidemment. Elle se réfléchit de manière assez contrastée suivant les communes. Mais ça, justement, c'est au cœur du travail de la chercheuse et géographe Edith Maruet-Jouls.
Des villes y travaillent, elles y travaillent aussi effectivement dans la question de l'inclusion, c'est-à-dire que une société qui se veut égalitaire, qui se veut bienveillante, et en tout cas pour le plus grand nombre, on peut le dire comme ça, en fait, c'est pas inclure des gens, ils sont là, en fait, les adolescents, ils sont là, ils sont devant leur collège en attendant, vous voyez, c'est tout un travail qui peut être fait aussi autour de leur espace de sociabilité, qu'est-ce qui se passe sur les espaces d'attente du collège, juste avant qu'on rentre, sur les espaces d'attente quand on est dans le rural, par exemple, hein, parce que dans le rural, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la sociabilité juvénile, hein, parce qu'il y a beaucoup de temps de trajet, etc. Qu'est-ce qu'on fait des temps quand on attend le bus, par exemple? En général, voilà, on ne les pense pas parce qu'on se dit qu'on attend un bus, on abri bus, et puis voilà. Alors qu'en fait, on peut faire du travail encore sur ces grandes assises, sur ces moments. Donc tout ça, ce sont des points. Mais il faut avoir une appétence, quoi. C'est-à-dire que travailler la question adolescente, c'est la travailler aussi, encore une fois, dans la relation fille-garçon. Enfin, j'insiste, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, les réponses qu'on a eues pendant des années, c'était la question de la canalisation des jeunes adolescents pénibles, quoi. quoi, on va le dire comme ça, ou qu'on considérait comme pénible, avec de l'équipement, encore une fois, pour les cantonner dans des espaces qui, finalement, n'ont servi qu'à préempter de l'espace, à privatiser de l'espace public et n'ont absolument pas résolu la question de l'ennui ou la question de la délinquance. Les politiques publiques qui prennent en compte la jeunesse à cet âge-là, je ne sais pas, de 12 ans à 17 ans, pendant ces 5 années-là, elles doivent s'intéresser aussi à leurs besoins, à leurs, aux sujets pour eux qui font leur sujet de vie, beaucoup plus qu'à résoudre des problématiques de décrochage scolaire, vous voyez, ou de délinquance, quoi, en fait. Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire, il faut partir sur un aspect positif de la question, en fait, mais pas sur quelque chose qui, justement, servirait encore à les invisibiliser ou à les cantonner à des espaces, à les mettre à l'intérieur ou à leur refuser d'être là. Et puis, il y a tout le travail de lutte contre les violences et le harcèlement de rue, quand même, encore une fois, pour ces jeunes filles. Enfin, voilà, dans lequel il faut aussi être dehors ou pouvoir être dehors pour une adolescente, c'est compliqué. Et ça, si on ne l'entend pas, ben on pourra faire tous les bijoux qu'on veut à l'espace public. Il faut lever les agressions, quoi. Donc, et ça, c'est un travail de fond à faire sur l'espace public.
Pouvoir être dehors pour toutes et tous en évitant les préjugés, sans être victime de préjugés des adultes, des autres jeunes. C'est toute une question qui occupe aussi l'esprit de Nora Hammadi. Une idée qui devrait peut-être tous nous faire réfléchir, c'est qu'est-ce que ça signifie d'être au monde sans finalité ? Est-ce qu'on arrive encore à le penser pour les enfants et les ados ?
Je pense que c'est absolument central parce que c'est aussi, quand on voit les écueils de l'éducation à la coréenne qui crée des gamins en malaise absolu parce qu'on les met dans des logiques de concurrence, dans des logiques de surinvestissement, d'apprentissage permanent. En fait, les gosses sont pas des bêtes à concours, quoi. C'est d'abord des expérimentations, c'est la possibilité d'être dans la sensation, dans l'émotion pure, dans le rien. C'est la possibilité de l'ennui. Et en fait, les premiers qui devraient s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait de nos gosses, bah, je pense que c'est nous, en fait. Parce que est-ce qu'on doit leur faire peser le poids d'une société qui est en train de devenir et qui est déjà finalement ultra concurrentielle et ces espaces, en fait, qu'on donne à nos mômes racontent aussi beaucoup de choses en creux de la manière dont on a, nous, intériorisé la logique néolibérale dans laquelle on est, finalement. Donc, là-dedans, l'idée n'est pas pour moi de juger quoi que ce soit. En fait, on fait avec ce qu'on est, avec ce qu'on peut, et il faut bien être naïf pour se dire qu'on peut s'extirper du système sans en payer les conséquences. Juste, comment est-ce qu'on trouve un équilibre ? Moi, qui viens de l'éducation populaire, je pense qu'il y a quelque chose sur la notion d'émancipation, de grandir pour grandir, d'expérimenter, d'avoir aussi un droit au cheminement, un droit à l'échec. Et c'est ça aussi que ça raconte, quoi. Et du coup, où sont ces espaces aujourd'hui ? Malheureusement, il y en a de moins en moins. Moi, je travaille encore, je fais de l'éducation aux médias depuis 20 ans et je travaille encore dans des villes qui font le choix de faire exister ces espaces. Mais à quel prix, quoi ?
En fait, les auditeurs ne le savent pas forcément, Nora, mais toi, tu travailles dans l'éducation populaire depuis très longtemps, tu continues à rencontrer plein d'ados et tu les écoutes aussi. Et je voudrais savoir si tu en parles de cette place qui serait la leur ou pas la leur dans la ville, des espaces dans lesquels ils aiment bien passer du temps.
Bah, ils me disent souvent qu'ils n'ont pas d'espace. Alors moi, j'ai la chance de bosser dans des communes où j'interviens dans des maisons de quartier, dans des maisons des jeunes. Et donc, ça veut dire que ces espaces existent. Mais tous et toutes ne les fréquentent pas. Donc, il y a la question de l'espace public. Et alors après, c'est là que ça devient vraiment un sujet très genré. Parce que moi, je travaille beaucoup avec des gamins de quartier populaire. Et quand on est un gamin qu'on voit comme, par exemple, noir ou arabe dans l'espace public, surtout quand ils sont en bande, là, ça devient une question sécuritaire. Et ça, ils le disent. Et ça, ils me le disent tout le temps. Donc, la question des jeunes dans l'espace public, c'est un sujet qui est absolument central, parce qu'en fait, on n'en veut pas. Ils sont chassés. Au même titre aujourd'hui que, bah, à l'heure où, sur les parvis de gare, vous avez, enfin, les parvis de gare ou même plein de villes, la vidéo protection ou surveillance, selon comment on se situe, elle est devenue, en fait, centrale dans la manière dont on gère la ville, bah, les algorithmes qui gèrent ces caméras, dès qu'il y a un rassemblement, vous devenez une anomalie. C'est-à-dire que ça devient presque un délit d'occupation de l'espace public. Et donc ça, ils m'en parlent tout le temps parce que c'est un vrai sujet pour eux de rapport au droit. En fait, on ne veut pas de nous dehors. Et le problème, c'est qu'on n'a nulle part où aller dedans. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'intimité nécessaire des appartements, des familles, qui sont parfois suroccupés. C'est aussi, dans la construction de l'intimité quand on est adolescent, la nécessité d'avoir son espace à soi. Et en fait, son espace à soi, il n'y en a pas beaucoup. Et après, quand on est en plus à Paris ou en région parisienne, l'espace public n'est pas toujours très safe. Moi, par exemple, j'interviens sur des villes comme Évry-Courcouronnes, La Courneuve, Aubervilliers, etc. L'espace public est souvent un espace de tension, où les filles se sentent par exemple pas bienvenues, où elles sentent en fait qu'elles n'y ont pas leur place, parce que c'est des espaces publics qui sont trustés par des hommes plutôt âgés. Mais parfois, on peut aussi avoir des jeunes gens qui, parce qu'ils sont estampillés, appartenir à un quartier spécifique, à une cité, vont être dans l'impossibilité matérielle même d'aller sur d'autres villes, sur d'autres quartiers, parce qu'il y a des phénomènes de rixe, d'embrouille entre ces quartiers-là. Et donc, sortir, être dans l'espace public et aller ailleurs, en fait, devient un danger potentiel, quoi. Donc, ce rapport à l'espace public, et on ne l'a pas pensé dans la manière dont on imagine les circulations. En fait, l'espace public n'est pas sécure pour tous et toutes. Et ce qui rend encore plus, je dirais, indispensable la nécessité d'imaginer des lieux physiques où les gamins se croisent, où ils peuvent expérimenter, se retrouver ensemble. Voilà, un lieu à eux, quoi. Et le problème, c'est que c'est un problème de confiance. En fait, on n'a pas envie de leur laisser des lieux. Ça dit quelque chose.
Et puis, avec tout ce qu'on s'est dit, finalement, cette laverie, ce lavomatique, c'est aussi un endroit qui est quand même assez intéressant.
Moi, déjà, je trouve que l'outil, enfin, l'objet, j'allais dire, l'équipement lavomatique est assez... je pense qu'on devrait tous et toutes y passer plus de temps, en fait. En plus, il y a dans la question du lavomatique et la question du linge, le linge, c'est quelque chose d'extrêmement intime dans une question humaine, laver son linge. Hein, dans cette mise en commun, finalement, de la relation, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Je trouve que les laveries sont sous-estimées en termes de relations sociales et en tout cas de possibilités de faire société.
Merci à Edith Maruet-Jouls, qu'on vient d'entendre, à Grégoire Borst, à Nora Amadi. Merci à tous les adolescents qui ont accepté de me répondre, à ceux avec qui j'ai discuté et qu'on n'aura pas entendu à l'antenne. Merci au lavomatique de mon quartier d'exister. Et puis merci à l'équipe d'Être et Savoir, François Richer à la réalisation et à la technique, Avril Ventura, adjointe précieuse à la production de l'émission, et merci à notre stagiaire Gaspard Carreno-Querelle.